Vous écoutez
RMC.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouidz. Bonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Le Var se prépare à des jours à haut risque avec le retour du Mistral et de la canicule. L'incendie dans le secteur de Corrence n'est toujours pas fixé et a ravagé les vignes. Inquiétude des viticulteurs. Après plusieurs suicides et tentatives de suicide, une enquête ouverte au sein des services du Premier ministre Sébastien Lecornu. Et le contre-la-montre du Tour de France Femmes aujourd'hui pourrait rebattre les cartes du classement général et coûter cher à Pauline Ferrand. Très beau.
Clément, la situation reste problématique dans le Var.
Un mot hier du préfet qui appelle à la vigilance. L'incendie n'est toujours pas fixé dans le secteur de Corrence, mais n'a pas progressé. En revanche, les mauvaises conditions météo des prochains jours ont de quoi inquiéter les autorités et les pompiers. Retour du Mistral et de la canicule. Et ces feux à Najoja n'ont pas épargné le vignoble varois.
Des vignes aux feuilles marron recroquevillées sous l'effet de la chaleur, entourées par des arbres calcinés.
Il y a quelques grappes qui restent vertes, on se demande comment. Mais bon, franchement, elles ne peuvent plus être nourries, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sève, il n'y a plus rien là.
Martin Laplane est viticulteur, il a perdu 6 hectares avec l'incendie.
Sur 120 mètres de longueur, il n'y a plus une feuille verte et même les bois sont vraiment... Il n'y a plus grand chose, quoi.
Il ne récoltera donc pas le raisin de ses vignes cette année. Il faut maintenant travailler pour l'année prochaine.
D'après les retours d'expérience, il n'y a pas de raison. Ça devrait redémarrer. Il faut y croire. C'est un peu difficile. Et...
On va sauver les vignes, quoi. Je l'espère.
Dans le secteur du Bessillon, toutes les vignes n'ont pas subi un tel coup de chaud. Mais il faut être vigilant et repérer celles qui auraient été touchées par le largage de produits retardants.
Ça, c'est clairement impropre à la consommation et donc à la récolte.
Frédéric Ambard est élu à la Chambre d'agriculture.
Il y aura les conséquences aussi des fumées sur des parcelles qui sont à côté qui n'ont pas brûlé visuellement, mais qui ont pris les odeurs de fumée et qui vont devoir traiter à part avec des protocoles particuliers.
Et il conclut, c'est du travail supplémentaire dans un contexte déjà tendu pour les ventes de vin.
Ouais, c'est difficile encore hein, dans le Var, mais soulagement en revanche pour les habitants de Lège-Cap-Ferré.
Ouais, ils ont pu retrouver leur maison hier après une dizaine de jours loin de chez eux. L'incendie a touché 22 maisons sur la presqu'île. En revanche, la situation est tout autre. Au Porge, où le village a été dévasté par les flammes, 183 maisons détruites. Et Grégory, lui, a eu la chance de retrouver son habitation intacte, mais pas question de rester plus longtemps.
Ma famille a eu beau être là depuis toujours. Moi, je ne veux plus vivre ici. Il y a trop souvent des incendies. Je suis également propriétaire terrien et j'ai perdu toutes mes terres, tous mes pins ont brûlé. Et pour gagner un peu d'argent avec les pins, c'est 25 ans. Ça a mis 25 ans à pousser, c'est pas du blé, quoi. Et là, voilà, une page se tourne, donc je vais louer la maison à quelqu'un qui en aura plus besoin et moi, je partirai ailleurs. Pour des raisons personnelles, il faut que moi, je tourne la page.
L'incendie en Gironde a laissé place à un autre défi. Un des millions de tonnes de pins doivent être abattus et évacués pour sécuriser le massif dévasté par les flammes. Et Inès Zegloul, la préfète, a réuni hier les acteurs de la filière bois pour lancer ce vaste chantier.
Difficile pour l'heure de savoir combien d'arbres il faudra abattre.
42 000 hectares, ça fait 4 millions. Vraiment.
La tâche s'annonce titanesque. Sur Laurent Delary du Centre National de la Propriété Forestière, des troncs noircis par millions menacent donc de tomber sur les routes, sur les habitations. Il va falloir couper à grande échelle, d'autant qu'un autre fléau plane sur les parcelles de forêt.
Des parasites qui viennent profiter des arbres calcinés pour se développer et aller attaquer des bois verts autour des 42 000 hectares. La course contre la montre, elle est là parce qu'on ne veut pas la double peine.
Alors, on s'attend à une saignée, souffle Manuel Martinez, le maire de Marcheprime. Mais attention, dit-il, à ne pas se précipiter.
Il y a une première étape qui est très claire. Il faut que les sols soient refroidis. On ne va pas en forêt tant que les sols sont chauds. Ces bois brûlés, là, on va les voir pendant plusieurs mois, voire un an ou deux ans.
Il le martèle, l'urgence, c'est de responsabiliser les promeneurs un peu trop curieux, ceux qui voudraient s'aventurer sur les chemins brûlés. Et puis, il va falloir penser à la suite. Que plante-t-on à la place ou faire des pare-feux préventifs. Des réunions sont prévues le mois prochain.
Autre incendie dans la Drôme, à Bellegarde en Guiwa. 80 hectares ont été parcourus par les flammes. Un hameau a dû être évacué. Plus de 120 pompiers sont mobilisés, épaulés par 7 canadaires et 2 Dash.
RMC 7h34, une série de drames au sommet de l'État, Clément.
Deux suicides, deux tentatives de suicide. Une mort suspecte et désormais des accusations de harcèlement moral à Matignon. Une enquête a donc été ouverte. Et Thomas Becker du service politique des RMC, vous avez pu recueillir le témoignage de l'avocat d'une fonctionnaire qui a tenté de mettre fin à ses jours.
La victime présumée travaille depuis 4 ans au sein du service de correspondance du Premier ministre. Il y a quelques mois, son chef de service a changé. Depuis, elle aurait été progressivement moquée, puis harcelée jusqu'à une tentative de suicide en avril dernier, son avocate Christelle Mezza.
Elle se retrouve avec les nouveaux venus, totalement invisibilisée, placée dans le sous-sol, humiliée avec des tâches où elle est rétrogradée. Et alors qu'elle participait à des réunions, qu'elle avait un rôle majeur au sein du service, elle se retrouve totalement écartée, invisibilisée.
En cause, selon elle, l'instabilité au sein de l'administration liée à la dissolution, mais aussi la culture start-up introduite depuis plusieurs années par les nouveaux managers.
Contournement des process habituels, décisions très très rapides, court-circuitage hiérarchique.
Dans cette affaire, Christelle Mezza pointe aussi la responsabilité du Premier ministre.
Quand vous mettez en œuvre des politiques publiques et que vous gérez des services, il y a un vrai sujet, c'est jusqu'à quel point vous ne pouvez et ne devez rendre de compte. C'est trop facile de dire au quotidien, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe dans mes services.
L'entourage de Sébastien Lecornu démissionne. Le Premier ministre a 60 conseillers sous ses ordres. Le reste est une myriade d'entités autonomes, assure son entourage. D'après Matignon, 3450 agents travaillent pour les services du Premier ministre.
Et justement, Clément, Christelle Mezza, cette avocate qu'on vient d'entendre, sera avec nous dans un instant sur RMC. Ce sera à 7h40, elle sera en direct avec nous.
Un ancien professeur de yoga mis en examen pour viol, agression sexuelle sur plusieurs femmes, dont une adolescente à 3. Des faits vieux pour certains de près de 30 ans. Les plaintes affluent de toute la France. Cet homme de 74 ans est également soupçonné d'avoir exercé une forme d'emprise sectaire sur ses victimes.
RMC, il est 7h36. Le Tour de France, femmes, change de rythme aujourd'hui.
Place un contre-la-montre de 21 km entre Geffrey-Jeanbertin et Dijon. Un exercice redouté par la Française Pauline Ferrand-Prévot. Qui pourrait, Maria Azé, y laisser de précieuses secondes au général?
Elle n'a plus participé à un contre-la-montre individuel depuis 2021.
J'adore en fait être nulle dans quelque chose et de progresser.
Pauline Ferrand-Prévot le sait, un chrono peut coûter très cher sur le Tour de France.
Déjà depuis cet hiver, remonter sur le vélo de chrono, trouver une bonne position, faire des tests en aérodynamisme sur la piste. Et puis après, c'est vrai que j'ai pas fait de contre-la-montre en course, mais j'ai fait pas mal de simulations à l'entraînement.
Mais devenir une spécialiste de l'exercice demande des qualités particulières, explique la championne de France Célia Lemoyle.
C'est beaucoup de gestion d'efforts, c'est le travail basé sur la position. Être habitué à envoyer des watts pliés en deux, on va dire. Et c'est un peu trouver le compromis entre la puissance et l'aéro. Mais c'est sûr que il y a pas trop de secrets, il faut s'entraîner et ça prend un peu de temps. Ouais.
Rien d'impossible pour la dernière vainqueur du Tour de France, selon Solène Müller, coureuse chez Saint-Michel.
On peut pas dire qu'elle va perdre du temps. Je la vois pas s'imposer, je pense pas, parce qu'il y a vraiment des grandes rouleuses. Mais après, c'est Pauline Ferrand-Prévot, je sais pas où est-ce qu'elle va se situer, mais elle va faire quelque chose de bien, c'est sûr.
Tenter de perdre le moins de temps possible dans un parcours de 21 km légèrement vallonné entre Geffrey-Jeanbertin et Dijon.
Et la Norvégienne Sigrid Oxet a remporté hier la troisième étape intégrale Tour de France Femmes à partir de 15h sur RMC. Puis premier match officiel de la saison pour l'OL. Les Gones défient le Sparta Prague ce soir, match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Coup d'envoi à 20h à suivre sur RMC.
Clément, le quintet se déroule sur l'hippodrome de Deauville à 18h30.
Et le pronostic de la Dream Team, leur favori, le 4 Caramelito, leur outsider, le 11 Prince des Villes.